On va déguster tous les dimanches sur France Inter à partir de 11h.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Aujourd'hui, nous allons réaliser un canard à l'orange, l'une des recettes les plus traditionnelles de la cuisine française.
Ce qui est très joli quand on pèle une orange à table, c'est de faire un ruban qui reproduit exactement le fruit.
Il est clair qu'une orange cueillie fraîchement de l'arbre...
Oui, c'est vrai qu'on n'a rien inventé de mieux, quoi, finalement, le fruit mûr cueilli sur l'arbre. Et pourquoi vous ne le faites pas?
Tout ce qui est précoce nécessite pour le marché, parce qu'on pourrait très bien présenter des oranges ou des clémentines avec des aspects verts, mais le consommateur...
Les consommateurs n'en veulent pas de la verre bien mûre, c'est quand même extraordinaire.
Vous êtes prêts? C'est parti, on commence.
Ah, il nous manque le Jean-Pierre Coff. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau dont on va déguster dans la famille des agrumes. Je demande l'orange, le fruit de l'oranger, Citrus sinensis, pour les intimes. Les douces, les amères, les navelles, les blondes, les sanguines, on passe à l'orange sous toutes ses formes et toutes ses variétés avec nos deux invités qui nous ont rejoints aujourd'hui en direct en ce dimanche 3 février. Nous avons la chance d'avoir aujourd'hui à nos côtés un spécialiste mondial des agrumes. Il est docteur en génétique à l'université de Montpellier, ingénieur à l'INRA, Franck Curc, bonjour.
Bonjour.
Et vous avez fait 10 ans de recherche au conservatoire de San Giuliano, en Haute-Corse, sur la plaine orientale de l'île de Beauté, qui possède quand même l'une des plus belles collections d'agrumes au monde. Vous avez travaillé aussi à Valence, en Espagne, et vous êtes aujourd'hui à Montpellier, où vous travaillez, si j'ai bien compris, sur l'origine des agrumes cultivés, c'est bien ça?
Oui, exactement.
Et vous nous avez rapporté de superbes oranges, grâce à quelqu'un qu'on va citer tout de suite, un certain Bruno.
Bruno Tomo, oui, qui est aujourd'hui responsable de la valorisation du matériel végétal, qui gère en partie les variétés d'oranges que l'on a dans la collection en Corse.
En Corse, à San Giuliano, il est sympa de vous avoir fait comme ça un...
Ah, il a été adorable, et il a réussi à me faire parvenir ses oranges à Montpellier que je vous ai amené jusqu'ici par l'intermédiaire de différents collègues.
Je ne sais pas combien il y a de kilos d'oranges, mais attention aux douleurs lombaires, là. Vous avez quand même rapporté beaucoup d'oranges depuis Montpellier. Merci beaucoup, merci d'avance. Vous allez évidemment nous faire une belle leçon de choses autour de l'orange. Avec nous, une cuisinière, et pas n'importe laquelle. Elle raffole des agrumes en général, de l'orange en particulier. Elle a énormément de talent au fourneau. Du Mermoz, c'est un épatant bistrot qu'on aime. Ça nous fait un point commun, Esther El Fayani à ma gauche. On l'aime beaucoup. 16 rue Mermoz, 8e arrondissement de Paris. C'est Manon Fleury, bonjour.
Bonjour François Révis.
Ça va Manon?
Très bien.
Et dans ce bistrot, vous maniez avec énergie l'orange notamment.
L'orange notamment.
En salé, en sucré?
Tout, partout.
Ouais, partout, c'est ce qu'on va voir. Dans les fauteuils des chroniqueurs Esther El Fayani et Jérôme Gagnès. Bonjour mes amis.
Bonjour.
Comment vous allez?
En pleine forme.
Oui.
Très vitaminé.
Un peu corde vocale, un peu en vrac. Hein,
oui, ça va se chauffer au fur et à mesure de l'émission, j'espère.
C'est ça, votre thème aujourd'hui?
Eh bien l'orange, je l'ai dans la peau. Tous les sens du terme.
Ouais, la peau d'orange. La peau d'orange, c'est important. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Réponse à cette énigme dans le courant de cette émission. Jérôme?
De l'or liquide.
De l'or liquide. On pourra presque dire de l'orange liquide. Enfin, pas tout à fait. Il peut y avoir comme ça des arômes de fruits
qu'on veut. Des choses comme ça, oui.
Très bien, on voit ça avec vous tout à l'heure. Réagissez en direct dans l'émission via l'appli de France Inter ou en nous envoyant un mail. On va déguster à radiofrance.com et c'est Estherelle qui répercutera vos réactions tout au long de cette émission. Retrouvez nos recettes. Les coups de cœur, les recettes de notre invité Manon Fleury, le podcast de l'émission sur franceinter.fr, à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Juste avant de passer à l'orange, deux coups de cœur. D'abord, un d'Esther El Fayani à l'occasion du Nouvel An chinois, qu'on célébrera quand même dans le monde entier, notamment en France, où la communauté chinoise est importante, ce mardi, le 5 février. Et à cette occasion, vous nous conseillez donc une petite adresse, Esther El.
Je vous avais déjà dit que quand il faisait froid, je mangeais chinois, mais j'ai un nouveau proverbe. Hein. En février, je mange taïwanais. Là-bas aussi, on fête le Nouvel An lunaire.
Ouais.
Et j'ai eu un coup de cœur pour un endroit très atypique, qui va plaire autant aux amateurs de saveurs asiatiques qu'aux fans de jeux vidéo. Ça s'appelle Coin Hop, c'est à Paris, dans le 9e arrondissement, et c'est un couple de passionnés qui est à la manœuvre. Thomas Mamaï en salle, il est collectionneur de bornes d'arcade. Vous vous souvenez?
On demande une définition à Jérôme Guénez. Borne d'arcade.
C'est des jeux électroniques.
Ben oui. Vous vous souvenez? Pac-Man, Dragon Slayer.
Alors, je rends de ça.
À côté des flippers.
Ça me gonfle, les trucs, là.
Bon, ben, j'irai sans vous, alors, Jérôme. Hein. Donc, vous avez Thomas Mamaï, qui est un ancien de l'Épi du Pain, qui est aussi collectionneur de bornes. Et qui a mis à disposition dans ce restaurant une partie de sa collection pour s'amuser en attendant les petits plats taïwanais de Yilin Mamaï, qui est aussi sa femme.
Et c'est là que ça devient intéressant.
Et c'est elle qui façonne de délicieux raviolis grillés à la demande, mais aussi des guabao, ces brioches vapeurs repliées sur des garnitures délicieuses. Poitrine de porc confite, bœuf à la cacahuète, le tout avec des petites sauces maison et des pousses de moutarde sautées. Tout est fait maison ici. Et on sent vraiment la différence. Surtout, faut garder une place pour le dessert. Mm-hmm. Car Yilin, elle était pâtissière chez Guy Savoie pendant quelques années. Donc, il faut goûter son cheesecake au thé matcha ou ses madeleines au yuzu.
Oui.
Elle a vraiment gardé tout son savoir-faire. Donc, c'est vraiment quelque chose idéal en famille. Un endroit qui ressemble à pas d'autre à Paris, je trouve. Et il vaut mieux réserver car ça a pas mal de succès. Coinoptable, c'est au 17 rue de Maubeuge dans le 9e.
Coinoptable, il faut retenir ce nom. Hein.
Ouais, oui, mais... ça a l'air magnifique, ça.
J'ai entendu madeleine au yuzu. Yuzu, Franck Kurk.
Yuzu, c'est un agrume qui est très à la mode en ce moment, qui nous vient du Japon, qui a des origines encore un peu cachées, mélange bigara d'orange amère, papeda, avec un zeste, avec un parfum exceptionnel,
prodigieux.
Et très sensible au terroir, c'est-à-dire que tous les yuzu ne se valent pas, même si c'est la même variété en fonction de où ils sont cultivés.
C'est ça, il y en a même maintenant qui se sont acclimatés en France, notamment.
Exactement,
du yuzu, graal de pas mal de chefs cuisiniers. Je vous rapporte une adresse de Lyon où j'ai passé quelques jours cette semaine, l'une des très bonnes boucheries de la ville qui s'appelle Bello, B-E-2-L-O, et qui se situe rue de la Charité dans le quartier d'Aisnes, sur la Presqu'île, 2e arrondissement de Lyon. Et ben, cette très bonne brasserie dresse le couvert, figurez-vous, grâce à Frédéric Bello. Alors Frédéric Bello, vous ne pouvez pas le louper. On le surnomme un peu Barberousse dans le quartier parce que, rapport à son look, à mi-chemin entre le corsaire et le hipster, il y a quelque chose d'un peu, voilà, c'est vraiment Barberousse. Il fut en 2010 le pionnier des viandes d'exception, majoritairement biologiques, maturées pendant plusieurs semaines. Il est notamment très expert des viandes de l'Auvergne voisine, le bœuf bio d'Aubrac, de Salers, le porc fermier d'Auvergne également, le veau fermier. Et donc juste en face, il y a cette boucherie qui dresse le couvert depuis quelques semaines dans un bistrot à viande. Très moderne, l'endroit s'appelle BLO. Et cet endroit propose une superbe sélection de viandes simplement grillées. Alors moi j'ai choisi un contre-filet de viande Salers bio, maturé 6 semaines. C'était vraiment un morceau d'anthologie, juste grillé saignant, avec une certaine mâche, une certaine consistance en bouche. Parce que là Salers c'est quand même une viande rustique qui se mâche, hein. ça fond pas immédiatement. Et en même temps il y avait ce persillé extrêmement fondant, une très très belle longueur en bouche. C'était vraiment un morceau d'anthologie accompagné d'un chou-fleur grillé et d'excellentes frites maison. Et notez également en plat du jour le délicieux cochon d'Auvergne grillé, servi avec une purée de pommes de terre beurrée à souhait, des carottes rôties au jus de viande. Et c'était un plat copieux à 12,80€ ou inclus dans une formule déjeuner à 18,90€.
Super accessible.
Dans les beaux quartiers de Lyon, ça fait vraiment plaisir. Blo, le corner carnivore de la boucherie Bello, 37 rue de la Charité, Lyon 2e. Vous passez un petit bonjour à Barberousse. Il se reconnaîtra de la part dont va déguster. Laurent Thomas, Stéphane Boja et Nadia Chougui sont à la console derrière la vitre de la régie. Le Brésil, figurez-vous, est le premier producteur d'oranges au monde. Et c'est aussi le pays d'origine de Flavia Coelho. Elle s'invite dans la très belle balade brésilienne de Gaël Faye, un titre choisi par Djoubaka. On a faim sur France Inter.
La tête tourne en derviche, l'alcool assèche, un goût âpre en bouche, ma langue une lame dans une poche rêche. Le parquet craque sous nos semelles usées de gosses de riches. On fume sur la corniche, dedans la musique recouvre les causeries. L'amour riche, on s'en contente, les nuits sont fraîches. Demain on dort, dimanche au temple, le pasteur ne fera que de faux prêches. On a la vie devant nous pour user nos cartouches. Dehors la ville est belle comme si j'étais un bateau mouche. Degré dans le rouge, des couples copulent sur la lune. Copine, c'est la luce, 15 ans d'âge transforme tes yeux en lagune. Embouteillage de filles devant les toilettes. Merde, j'ai confondu les noyaux d'olive avec les cacahuètes. On danse nos solitudes sur des rythmes binaires. Tous par terre, le cerveau dans la brume, y'a de l'humour dans l'air. Dans ces instants, bref, c'est le temps qu'on déjoue. Donc dis-moi à quoi on joue avant les lueurs du jour.
É que a situação aqui tá difícil. Faltando poesia, homem nenhum querendo compromisso. Pra trocar uma ideia, na moral é um suplício. O cara que fala em poesia estava esperando por isso. Na pista a gente dança, a temperatura é perfeita. É cedo, é meia-noite, a lua cheia. O seu perfume é da China, de Paris. Você torce pro PSG. Aí o que falta pra tu ser feliz? Sol, vento na cara, chopp gelada, biquíni, sandália. Mais uma noite no Brasil. Vamos a pé, caminhar na praia, recair na gandaia, nas ondas do amor.
Allonger la tête dans les nuages, la nuit bleutée. Lève les yeux là-haut, le ciel est à notre portée. Est-ce un drone, une étoile, oh, peu importe, fais un vœu. Le cadran essoufflé affiche une heure de couvre-feu. Cachaça, sucre canne, glaçon pilé. Mon petit cœur est un citron dans un mortier. Le ciel est clairsemé comme la piste de danse. Où sont passés les temps sereins, ont rien de porté à conséquence. Un fragment de volupté, un parfum, une archive, une fragrance d'été. Une fumée suffocante, tes contours et mes pensées me fouettent comme une pluie battante sur le pas de passants pressés. Viennent des lueurs à la fenêtre, la nuit qui meurt pour voir un nouveau jour naître. Et comme le temps nous est compté, j'irai camper sur tes lèvres pour m'endormir à t'écouter.
Mon meilleur souvenir d'Orange me vient encore de Barbicaille, un grand jardin auprès d'Ajaccio où j'allais faire la sieste aux heures de chaleur. Ici, les orangers, plus hauts, plus espacés qu'à Blida, descendaient jusqu'à la route, dans le jardin dont le jardin n'était séparé que par une haie vive et un fossé. Tout de suite après, c'était la mer, l'immense mer bleue. Quelles bonnes heures j'ai passées dans ce jardin. Au-dessus de ma tête, les orangers en fleurs et en fruits brûlaient leur parfum d'essence. De temps en temps, une orange mûre, détaché tout à coup, tombait près de moi comme alourdi de chaleur, avec un bruit mat, sans écho, sur la terre pleine. Je n'avais qu'à allonger la main. C'étaient des fruits superbes, d'un rouge pourpre à l'intérieur. Ils me paraissaient exquis, et puis l'horizon était si beau.
Une lecture de Franck Curc, c'est vous qui nous avez mis sur la voie de ce récit très exotique, signé quand même ?
Alphonse Daudet.
Alphonse Daudet, c'est un extrait de la nouvelle « Les oranges » dans les lettres de mon moulin, publié en 1869. Alors ce texte montre, et c'est ça qui est intéressant au-delà de sa qualité littéraire, tout l'émerveillement, le dépaysement que procurent au XIXe siècle les vergers d'orangers en Corse, qui est, soit dit en passant, votre île natale.
Oui.
Donc vous êtes particulièrement sensible évidemment à ce texte. La relation entre la Corse et l'orange est assez intime.
Elle est très ancienne, oui. C'est vrai que dans beaucoup de cultures européennes, les agrumes, c'est le symbole de la Méditerranée.
Mm-hmm.
Et en Corse, les oranges, on a la preuve en tous les cas qu'elles étaient cultivées depuis le XVIIe siècle, puisqu'on a retrouvé des écrits en ancien génois qui expliquaient que des orangers avaient été offerts pour un mariage et avaient été plantés dans un village qui s'appelle Aregno, en Balagne.
Et oui,
très
beau village d'ailleurs.
Absolument, 1686. Alors c'est intéressant parce que Aregno, c'est l'anagramme d'orange.
Ah, c'est donc pas un hasard. Vous êtes en train de dire que le nom du village tirerait son origine de l'orange?
Je ne crois pas. En revanche, il y a une vraie culture de l'orange là-bas, puisque tous les week-ends qui suivent le 17 janvier, la Saint-Antoine, qui est, soit dit en passant, le jour de mon anniversaire, on fête les oranges. Non, mais on fête les oranges ce jour-là, ouais. Avec une procession, on bénit les oranges dans le village d'Aregno. C'est une fête absolument extraordinaire. C'est le premier week-end après le 17 janvier.
C'est vrai qu'on connaît en Corse la clémentine, le cédrat évidemment, Corse terre d'accueil pour les agrumes, et l'orange s'y trouve vraiment très bien. Alors que en France, même si la Corse est la France, mais en France métropolitaine, c'est vrai que l'orange...
Attention, la Corse fait partie de la métropole.
C'est ce que j'ai dit.
Oui, donc du coup, c'est pas en France métropolitaine, donc ou en France continentale.
Vous avez raison, excusez-moi.
Que de la France continentale.
En France continentale, l'orange par contre se fait un peu plus rare.
Elle se fait rare, mais il y a quand même eu une tradition d'orange douce, notamment du côté de Perpignan ou aux frontières italiennes, ou d'orange amère. Du côté de Valoris, à côté de Grasse, où on produisait de la fleur d'oranger pour produire de l'huile essentielle de la fleur d'oranger qui s'appelle le néroli, qui rentre dans la composition de tous les grands parfums français. Et ce qui est excellent aussi, c'est que le déchet de cette production d'huile essentielle, c'est l'eau de fleur d'oranger qu'on utilise en pâtisserie dans le sud de la France ou au nord de l'Afrique.
Des auditeurs nous disent que la ville d'Orange tirerait son nom du fruit, par le fait que pendant longtemps, ces fruits remontèrent le Rhône jusqu'à la ville d'Orange.
Alors là, c'est moins attesté. En fait, là, on se retrouve, je pense, plus dans un système d'homonymie, où en fait, la ville d'Orange, la famille d'Orange, a une étymologie qui est un peu différente de celle du nom de l'orange, mais qui arrive finalement au même mot. Alors, c'est quelque chose qu'on connaît bien en génétique, où il y a des évolutions différentes qui arrivent à quelque chose d'identique. Et là, en linguistique, c'est pareil.
D'accord.
Donc, il y a peut-être un lien, mais il n'est pas aussi simple que ça.
Il faut creuser. Des documents italiens qui évoquent la présence de l'orange en Italie dès le début du XVe siècle. Des vergers en Espagne, écrivez-vous dans ce livre Agrumes aux éditions La Maison, donc des vergers en Espagne dès 1515. En Sicile, dès 1523. Et donc, avant 1600, en Corse, selon une idée reçue, l'orange serait méditerranéenne. En réalité, il n'en est rien.
En réalité, elle est née en Chine, en fait. Donc, on parle du Nouvel An chinois, c'est complètement la saison.
Oui.
D'où son nom latin, Citrus sinensis, exactement. Et on cultive l'orange en Chine depuis plus de 2000 ans avant Jésus-Christ. On a des écrits qui montrent, non pas à l'état sauvage, mais carrément cultivé. Et pourtant, elle n'arrive en Europe et en Méditerranée qu'à partir du 14e, 15e siècle.
Et là, on parle de quelle orange? Parce qu'évidemment, on parle souvent de l'orange amère qui est la bigarade, l'orange douce.
Alors,
de quelle orange s'agit-il?
Alors, 15e, 16e siècle, c'est l'orange douce. La bigarade arrive un peu avant, en Méditerranée. On ne connaît pas l'orange douce, on ne connaît pas la mandarine, on connaît à peine le cédrat, donc pas le citron non plus. Et les premiers agrumes qui arrivent en Méditerranée, c'est le cédrat et la bigarade ensuite. Donc le cédrat en 300 avant Jésus-Christ et la bigarade, elle, 10e, 11e siècle. Et ensuite arrive par les navigateurs portugais justement l'orange, d'où le nom de Portugal pour un grand nombre de variétés d'orange, voire le nom de Portugal pour désigner l'orange dans différentes langues. En Corse, on a cette trace-là sur les marchés ajacciens où on différencie l'orange de la mandarine en disant « l'arancho Portugal » pour l'orange
et « l'arancho mandarine »
pour la mandarine.
C'est ça.
Mais en roumain, par exemple, Portugali, c'est l'orange. En turc, en plusieurs langues, le nom d'orange se dit Portugal.
C'est ça. Alors, évidemment, le bassin méditerranéen, grande terre d'accueil de l'orange. Il y a aussi l'orange du côté des tropiques. Et d'ailleurs, c'est les énormes productions. On parlait du Brésil il y a un instant, mais également les États-Unis et notamment l'État de Floride, où l'orange s'est vraiment acclimaté, parfois de façon d'ailleurs intensive, il faut bien le reconnaître, au service de l'industrie du jus d'orange.
Oui, puisque l'orange, nous, en Méditerranée, on la connaît plus sous forme de fruits frais. C'est vrai que aux États-Unis et au Brésil notamment, c'est des grosses industries de production d'orange pour le jus. Du coup, ce sont pas tout à fait les mêmes variétés, mais c'est des hectares et des hectares à perte de vue d'oranger souvent taillés, récoltés mécaniquement pour faire du jus d'orange. Mais le jus d'orange, on fait partie des plus gros consommateurs également de jus. Alors pas toujours de jus frais, malheureusement, mais le jus d'orange, les agrumes sont les premiers fruits. Les fruits les plus produits au monde, surtout pour cette industrie du jus d'orange.
Là, on est véritablement dans des usines à orange à ciel ouvert, hein, en réalité.
Pratiquement, oui, on est dans de l'industrie intensive, avec des jus souvent concentrés pour être transportés plus facilement jusqu'en Europe.
Estherelle Payani.
Alors justement, en parlant du Brésil, on a une question de Nicolas Poulicagne, qui souligne avoir entendu que les orangers brésiliens et floridiens étaient frappés actuellement par une maladie. Qu'en est-il aujourd'hui? La monoculture est-elle la raison de cette épidémie? Et y a-t-il un risque pour les vergers européens?
Franck Kurr, qui est intéressant.
Alors oui, c'est une maladie qui est très importante, qui s'appelle le HLB en résumé, parce que c'est une maladie qui a un nom chinois, on revient au chinois. Le Wanglongbing, qui veut dire maladie du dragon jaune, qui est transmise par un insecte et qui frappe les vergers asiatiques, américains, africains. Et aujourd'hui, la seule zone du monde où on produit des agrumes sans cette maladie, c'est le bassin méditerranéen. Et donc, oui, on est inquiet, puisque l'insecte vecteur serait arrivé au Portugal. La maladie, peut-être pas encore, mais c'est une maladie qui est importante au Brésil et en Floride, à tel point qu'en Floride, la production de pomelo a énormément chuté. Et qu'au Brésil, un des moyens pour éviter cette maladie, c'est éliminer les insectes qui la transmettent, donc avec des traitements relativement intensifs. Donc on est très inquiet, on suit ça de très très près, parce que cette maladie, oui, peut arriver en Méditerranée.
Essayons de situer les origines botaniques de l'orange. J'ai sous les yeux un document absolument passionnant. C'est un peu frustrant pour nos auditeurs derrière leur poste de radio, mais c'est vous qui l'avez produit, c'est tout simplement ce bel arbre généalogique des agrumes, la grande famille des rutacées, en réalité, dont fait partie ensuite en genre le citrus, dont fait partie l'orange. Mais Expliquez-nous, selon d'ailleurs des découvertes récentes, où se situe l'orange dans cet arbre généalogique ? Car il y a un papa, il y a une maman dans l'histoire, et l'orange n'est pas arrivé en tant qu'orange par hasard, mais au contraire, après un processus botanique assez complexe.
Oui, alors l'orange fait bien partie des... Enfin, les agrumes font partie des rutacées, c'est-à-dire des plantes à glandes à huile essentielle. Quand vous épluchez une orange ou une clémentine, vous avez ces huiles essentielles sur le zeste, mais il y a d'autres plantes qui l'ont. En revanche, la particularité de ce que l'on appelle agrumes en français, ce sont des fruits organisés en quartiers.
Voilà.
Et donc là, si vous avez des quartiers, c'est bien un agrume. Et l'orange Citrus sinensis, donc fait partie du genre citrus, et elle est née de croisements successifs entre deux grands groupes ancêtres des citrus, qui sont les mandarines, les vraies mandarines, mandarines sauvages, et les pamplemousses, les vraies pamplemousses, et non pas les pomelos. Les vraies pamplemousses, ce sont ces très gros fruits que l'on trouve sur les marchés venant de Chine, avec une peau très épaisse, souvent avec un cellophane autour ou un filet rouge, qu'on appelle pomelo sauvage ou pomelo de Chine, alors que c'est du vrai pamplemousse.
Alors que le pomelo serait justement le croisement du pamplemousse et de l'orange.
Exact. Le pomelo est un hybride naturel, découvert dans les Caraïbes, entre le vrai pamplemousse, ce gros fruit, Shaddock ou Shaddock aux Antilles, pour
oui.
ceux qui nous écoutent aux Antilles.
Oui, je connais
croisé,
ce fruit.
Croisé avec l'orange. Et donc l'orange, elle est née de justement ce vrai pamplemousse et cette mandarine qui se sont croisées plusieurs fois pour obtenir l'orange.
Donc il y a du pamplemousse et de la mandarine
oui.
dans les papa et maman de l'orange.
Exact.
En fait.
Dans le papa et la maman de l'orange, on a du pamplemousse et la mandarine, contrairement à la bigarade qui, elle, est bien un croisement direct entre la maman, le vrai pamplemousse, et le papa, l'orange, le papa, la mandarine, pardon. Je suis en train de compliquer encore plus. La bigarade, c'est pamplemousse-mandarine directement, alors que l'orange, c'est des mélanges mandarine-pamplemousse plusieurs fois avant d'avoir l'orange.
Quand je vous disais que Franck Kurk faisait vraiment autorité dans le monde des agrumes, vous le regardez, Manon Fleury, comme...
Ouais.
C'est intéressant, non ?
C'est passionnant.
C'est vraiment passionnant ?
C'est passionnant.
On peut les cuisiner aussi, les agrumes, c'est ça qui est passionnant, parce que ce que vous avez peut-être de plus que Franck Kurk, c'est que vous savez les cuisiner. Enfin, je dis ça et en même temps, quel est le niveau de votre savoir-faire culinaire, Franck Kurk ? Ça se trouve, vous faites
alors,
plein de choses.
Ma femme cuisine très bien, mais à la
et
maison, c'est moi qui cuisine.
J'ai le droit de dévoiler un secret ?
Oui.
Votre femme est d'origine espagnole ?
Si, claro.
Si, claro. Naranja. D'ailleurs, il y a une expression pour dire ma moitié en espagnol.
Alors, mi media naranja, ma moitié d'orange, c'est ma moitié.
Mi
et en fait,
naranja.
Moi, j'ai rencontré ma moitié d'orange à Valence, en Espagne, pays des oranges. J'en suis très fier.
Non, mais la vie est belle.
C'est très mignon.
Franchement, la vie est belle. Le destin de Franck Kurk est intimement lié aux agrumes et à l'orange. Manon Fleury, on commence par une petite recette. Nous, on a craqué plusieurs fois quand on est allé avec Esterelle s'attabler chez vous au Mermoz. Et on observe effectivement que votre cuisine, elle est, y a une tonicité, il y a du peps, il y a quelque chose qui est apporté effectivement par les agrumes. C'est à la fois des goûts, c'est une acidité, c'est une palette aromatique tout à fait intéressante que vous utilisez beaucoup. Ils viennent d'où vos agrumes ? Et les oranges en particulier dans votre restaurant ?
Alors là, les oranges que j'ai apportées aujourd'hui avec lesquelles j'ai cuisiné viennent d'une petite coopérative bio en Sicile.
Oui.
Et en fait, c'est Terroir d'Avenir, mm-hmm. le fameux Terroir d'Avenir qui se trouve à Paris.
Bien sûr, maison incontournable à Paris.
Qui me les fournit.
C'est ça. Donc, on va bien entendu explorer un peu le monde des oranges avec ses différentes familles ou variétés. Mais là, spontanément, comme ça, vous avez travaillé l'endive, qui est vraiment ce légume très hivernal, et vous l'avez en quelque sorte ensoleillé avec un trait d'orange. Et franchement, on le connaît un peu, hein, déjà l'accord endive-orange, mais qu'est-ce que ça fonctionne bien. Elle est où cette salade ?
Juste là.
Elle est par ici. Ah, vous êtes gentil, vous l'avez mis au milieu, Estherelle ?
On partage tout, vous
savez. Racontez-nous ce que vous avez fait, Manon.
En fait, ce que j'aime bien faire souvent au Mermoz et ce que je trouve intéressant sur des saveurs, c'est de travailler sur des tons sur tons.
Oui.
C'est-à-dire travailler sur des amers, amers sur amers ou acides sur acides et travailler sur amener un peu d'amertume à la mer déjà de l'endive. Je trouve ça assez rigolo.
Bien sûr.
Et ça fonctionne souvent.
Des camaïeux gustatifs en quelque sorte.
Exactement.
Amertume sur amertume, acidité sur acidité.
Oui. Et finalement, et en fait, ça me vient assez souvent, assez naturellement, et ça fonctionne très bien.
Bon, là, ça fonctionne bien.
Hein. L'orange que j'ai utilisé est justement assez douce, donc ça vient pas non plus, c'est pas une amertume dérangeante, mais j'aime bien jouer là-dessus, effectivement.
Alors comment on s'y prend ? Parce que déjà, il faut préciser que vous épluchez vos endives, non pas en segments de 2-3 cm pour les feuilles, mais vous les laissez entières, elles s'épanouissent dans l'assiette, et ensuite, tout le secret de cette... salade, c'est effectivement son assaisonnement.
Exactement. Je trouve que un légume en salade bien assaisonné, c'est très simple, mais ça peut être vraiment magique. Et là, en fait, on a fait une petite vinaigrette avec du jus d'orange, du jus de citron, un peu de vinaigre de rancio et une bonne huile d'olive. Et j'ai terminé par une huile de noix.
Mmh.
Ah, puisqu'en fait, en dessous de votre salade, vous avez un praliné aux noix que j'ai fait avec des noix fraîches que me rapporte mon cueilleur qui s'appelle Fabrice, qui fait des noix absolument splendides. Des noix que j'ai jamais goûté. Ça faisait très longtemps que j'avais pas goûté des noix comme ça. Il m'en a ramené là à l'automne et c'est vraiment magnifique. Et à côté de ça, vous avez une pâte d'orange que j'ai faite. En fait, c'est une technique que j'utilise beaucoup. Qui ne vient de mon papa, hein. J'ai rien inventé, Pascal Barbeau.
Votre papa en cuisine, Pascal Barbeau, j'allais dire 3 étoiles, je suis désolé, il a perdu sa 3e étoile, il le méritait absolument pas, rue Beethoven dans le 16e arrondissement, oui. Et c'est vraiment un créateur exceptionnel.
Et c'est aussi un chef qui travaille, qui m'a aussi donné, avec William Ledeuil, vraiment le goût des agrumes. Moi, j'ai vraiment découvert les agrumes avec Pascal Barbeau et avec justement Michel et Bénédicte Bachès. Et donc la technique pour cette petite pâte d'agrumes, c'est de faire rôtir l'agrume au four.
Entière avec la peau ?
Entière avec la peau, donc on utilise tout. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la pulpe qui est à l'intérieur de l'agrume va garder une certaine fraîcheur. Et donc on récupère cette pulpe qu'on mixe et qu'on redétend avec... Enfin, qu'on redétend, c'est un terme technique de cuisinier, mais qu'on va lisser avec du jus d'orange frais.
D'accord.
Et donc ça nous donne vraiment une pâte d'agrumes.
Il y a un peu d'huile d'olive aussi.
Il y a un peu d'huile d'olive, exactement.
Et ça donne une pâte extrêmement concentrée et qui peut servir finalement de moutarde fruitée ou de condiment pour tout un tas de choses.
Exactement. Et ça se décline avec pratiquement tous les agrumes. J'en ai fait une. On va pas s'attarder, mais j'en ai fait une dernièrement avec un pamplemousse blanc de Kalamata. Et c'était splendide parce que c'était ça casse en fait l'amertume.
Mais alors l'orange dans la vinaigrette, voilà quelque chose, je ne sais pas si vous connaissiez cette pratique, Franck Kurk, mais l'idée de mettre du jus d'orange frais mêlé avec éventuellement un peu de citron et de vinaigre pour compléter l'acidité, la palette aromatique, de l'huile d'olive ou de l'huile de noix comme c'est le cas ici, c'est vraiment prodigieux, ça apporte une ampleur aromatique très forte au plat.
Alors moi j'ai eu la chance de travailler, donc vous l'avez dit, pendant 10 ans dans une collection d'agrumes où il y a plus de 1000 variétés, donc non seulement dans la vinaigrette j'ai essayé le jus d'orange, mais plein de citrons, le citron jaune classique, mais le citron Meyer, des citrons panachés avec à chair rose, on peut parler du combava, on peut parler de la bergamote, donc il y a une palette aromatique que l'on peut mettre avec les agrumes dans la vinaigrette qui est absolument incroyable, avec modération pour certains, parce que le combava ou la bergamote par exemple, ça prend souvent bien le dessus et du coup on peut rater sa vinaigrette aussi, ça a été mon cas souvent.
Oui. Mais c'est très intéressant,
les parfums de citronnelle.
Les vinaigrettes aux agrumes, c'est passionnant parce que ça permet, moi qui suis très sensible au vin, de pouvoir assaisonner des salades et boire du vin sur ces salades parce que on n'a pas le vinaigre qui vient tuer le vin. Donc j'utilise aussi beaucoup les agrumes en vinaigrette.
Jérôme Gagnaise, passionné de vin, en voilà une surprise.
On va déguster. Sur France Inter.
Comment il va, Jérôme Gagnaise ?
Pleine forme.
Il s'est occupé de nos verres ?
Oui, comme dit Estherelle, je suis survitaminé grâce aux agrumes magnifiques et grâce à cet or liquide que j'ai versé dans les verres.
Oui.
Bon, vous allez m'engueuler une fois de plus.
Pourquoi ?
Patron. Parce que, pour le coup, enfin les auditeurs aussi vont m'engueuler, mais je leur répondrai, je vais surtout leur expliquer.
Ah,
le vin est cher.
Ouais.
Le vin est cher, mais c'est pour la bonne cause, parce que c'est un vin qui est produit avec des tout petits rendements. C'est des vignes qui sont faites comme un jardin. Et donc, très rapidement, pour vous expliquer, un vin classique, il est produit à 40 hecto-hectares. Et il est vendu 15 euros. Ici, les vins que je présente souvent sont aux alentours de 15 euros. Ici, on a un vin qui est produit à 10 hecto-hectares. 4 fois moins pour 2 fois plus de travail. Et on a un vin qui est à 24 euros. À
la
peine,
bouteille.
Même pas 2 fois plus que l'autre. Donc, on peut dire que produire ce vin relève aussi un peu du sacerdoce. Alors, quel est ce vin ?
Ah,
c'est un vin...
Quelqu'un a une petite idée autour du plateau ou pas ? Une belle robe dorée qui laisse des larmes sur la paroi, ce qui pourrait indiquer éventuellement quelque chose en termes de sucre ou de gras.
Exactement, très juste.
Vendange tardive.
Alors c'est dans ce registre-là, sauf que là c'est même encore mieux que ça, j'allais dire, puisque c'est un vin de pure botrytis, c'est la pourriture noble, ce champignon qui s'installe sur le raisin. Et on est à l'ouest...
À Sauternes.
Non, on est à l'ouest de Paris, à une petite trentaine de kilomètres au sud d'Angers, en plein cœur des coteaux du Layon.
Du Layon.
Le Layon, ce ravissant petit, cette ravissante petite rivière qui serpente comme ça et qui va se jeter dans la Loire. Et voilà, une région bénie des dieux, parce que ce Layon, un peu comme le Ciron à Sauternes, eh bien, il assure ces brumes matinales qui permettent le développement du botrytis et qui permettent la production de ces vins liquoreux absolument exceptionnels, qui constituent une des fiertés de cette région et à juste titre. Les vignerons qui produisent ces vins sont des héros parce que on en vend moins que des vins secs. C'est très difficile à produire, c'est très long à produire, mais ce sont de véritables trésors. On est ici chez Eddy et Milaine Osterlink. Alors, ce sont des gens absolument extraordinaires. C'est l'oncle gâteau, la tante gâteau dont on a tous rêvé. C'est-à-dire qu'ils sont d'une gentillesse absolument formidable. Et surtout, leur histoire est très amusante. Ils sont quincaillés, ils sont flamands, quincaillés. Puis en 1985, ils tombent sur une petite maison qui leur plaît beaucoup parce qu'ils adorent la France, ils adorent le bon vin et la bonne bouffe. Donc ils décident de s'y installer. Et Eddy et Milaine se disent que quand ils auront une cinquantaine d'années, au moment de la retraite, ils abandonnent la quincaillerie et ils seront peinards en France pour profiter de la vie. Mais ce qu'ils n'avaient pas vu, c'est qu'il y avait une petite vigne à côté de la maison. Et cette petite vigne, qu'ils avaient considérée comme un petit détail amusant au départ, eh bien finalement, elle va leur trotter dans la tête comme ça pendant quelques années. Et finalement, en 2001, quand ils s'installent, eh bien ils font du vin. Ils ont 6 hectares parce que Eddy et Milaine, ils n'ont pas résisté à l'envie de croquer un petit peu les petites vignes qui sont tout autour pour se constituer un petit domaine. Et ils se lancent dans la production au domaine de Juchepy. Ils se lancent dans la production de vins liquoreux. Alors, on connaît tous les épouvantables liquoreux de supermarché, absolument dégueulasses. On a l'impression d'avoir avalé un pot de miel après avoir bu à peine une gorge. Donc c'est une horreur. On est ici à l'exact inverse, c'est-à-dire qu'on a véritablement le vin qui est empreint d'une grande puissance, d'une belle liqueur, et en même temps il y a beaucoup d'acidité, il y a des beaux amers d'agrumes. On va retrouver les amers
est-ce
de
que,
Bigarade.
Est-ce que Franck Kurk est en train de faire circuler le vin sous son palais? Vous retrouvez les agrumes qui vous sont si chers?
Alors je suis d'accord, en fait on retrouve plus de l'amertume de Bigarade que de Pomelo,
oui, par c'est exemple. Vrai.
Donc il y a vraiment quelque chose qui est beaucoup plus aromatique et très agréable.
Et on retrouve ces arômes de marmelade d'agrumes, de marmelade de d'orange.
Ne spoilez pas trop la chronique d'Estarel.
Pardon, je n'ai rien dit. Et donc Eddy et Milaine, ils se mettent à produire ces vins et ils font 4 cuvées différentes. Celle-ci s'appelle les Churelles, c'est la première cuvée, c'est la moins concentrée de toutes les cuvées parce que par tries successives, les raisins rentrent. Et on se retrouve avec des vins qui sont de plus en plus concentrés en sucre et en acidité. Or, toute la richesse de ce vin, tout le secret de la qualité gustative de ce vin, c'est l'équilibre. C'est-à-dire qu'il faut avoir de l'acidité pour contrebalancer le sucre. Gustativement, si vous n'avez que du sucre, même pas beaucoup, c'est un pot de miel, c'est imbuvable. Donc il faut de l'acidité qui va venir, vous parliez de détendre tout à l'heure, qui est un terme de cuisine, et bien finalement, l'acidité, elle vient détendre la sucrosité et la liqueur en bouche et elle apporte. C'est un petit peu l'acidité comme des mini vérins qui portent le sucre sur la langue pour le rendre plus léger.
C'est bien dit.
Et donc ça fait que on n'a pas cette lourdeur, on n'a pas une bouche totalement suquée. Ça n'est pas saturant, c'est digeste. On peut en boire autant qu'on en veut parce que c'est très digeste. Moi, je l'ai bu, ce vin, à la maison. J'en ai acheté quelques bouteilles. Je l'ai bu sur des plats salés. Évidemment, sur le canard à l'orange, il faut bien dire que ces vins-là se boivent tout le temps à table parce que ce sont de magnifiques vins de gastronomie. C'est pas seulement le vin qu'on donne à mémé à Noël avec un morceau de foie gras. C'est vraiment le vin que l'on peut boire sans arrêt sur plein de choses à l'apéritif. Si on aime les vins un peu sucrés à l'apéritif, on peut le boire sur... J'ai essayé sur votre salade, Manon. C'est admirable. Les amers se répondent. Le sucre vient enrober un peu cette amertume. Voilà un très bel accord. Donc réellement, n'oubliez jamais les Layons, le coteau du Layon. C'est un grand, très grand vin blanc liquoreux de Loire. Il n'a rien à envier aux autres. N'oubliez jamais ça. Ça s'appelle les Churelles, coteau du Layon Faille. Les Churelles de Juchepy 2017. Ça vaut 24€ au domaine. Je le répète, ça n'est pas cher compte tenu de l'extrême complexité pour la production de ces vins. Donc, vous en achèterez pas forcément autant que d'un autre vin, mais véritablement, précipitez-vous, c'est un domaine admirable.
Un grand merci pour ce beau coup de cœur. Jérôme Gagnès, dans un instant, on va essayer d'égrener quelques-unes des grandes variétés d'oranges, puisque on en a une sacrée panoplie sur le plateau dont on va déguster. Des recettes encore avec Manon Fleury, on va même passer au dessert, ou plutôt au petit déjeuner, avec Estherelle Payani.
can hear a baby cry as the trains in New York City roll thunder down the line. The teachers rise in Richmond as they sleep in San Antonio, while the harbor lights on Baltimore got nurses headed home. And the Joes of Maricopa say a man is but is wrong. It's morning in America, but I can't see the dawn. Congressman in Washington
sur le plateau dont on va déguster avec Duran Jones et The Indication, Morning in America. De l'Amérique, on passe à la Grèce.
C'est magnifique tous ces orangers. Hein.
On est bien là au milieu des oranges.
Elle veut absolument vous offrir des oranges.
Attends.
T'as sur le jus.
Bien juteuse là.
Elles ne sont pas complètement mûres et risquent d'être un peu acides.
Elle est déjà hyper bonne. Hein.
Elle est douce.
Encore une dizaine de jours pour que ce soit complètement mûre. Ça, c'est les oranges de l'été. Et la récolte dure jusqu'au mois d'octobre. Et l'autre variété commence début novembre jusqu'à fin mars. Ça fait qu'on a deux oranges toute l'année.
Attends. Souvenez-vous, c'était un voyage sonore de Lenora Krief qu'on vous avait proposé. Ça se passait à Kalamata dans le Péloponnèse, dans la famille Chantzios. C'était une émission d'été. Et notre invité, Pierre-Julien Chantzios, nous avait confié la recette du gâteau à l'orange de sa grand-mère Yaya, qui a eu beaucoup de succès auprès de nos auditeurs. La preuve, c'est que Patricia et Philippe du Lot-et-Garonne, qui sont des auditeurs fidèles et qui nous ont rejoints comme ça, un dimanche, dans le studio dont on va déguster. Et ben, Patricia me dit, bah oui, je l'ai cuisiné cette recette. Hein, Patricia? Et elle me confirme que c'était bon à l'oreille. Voilà, comme quoi, vous pouvez la retrouver d'ailleurs cette recette sur franceinter.fr à la page On va déguster. Et Laurane Thomas me rappelait, notre réalisatrice au casque, qu'il y a quand même dans cette recette un verre d'huile d'olive.
Mais un petit.
Mais pas de beurre.
Et puis c'est un bon gâteau. Oh,
c'est pas beaucoup. Un verre d'huile d'olive,
c'est un bon gâteau.
Tout va
donc,
bien.
Ça manque de beurre surtout.
Oui, ça manque de beurre, mais l'huile d'olive, je vous assurez, apporte là encore une tonalité absolument prodigieuse à ce dessert grec. Beaucoup, beaucoup d'auditeurs nous rappellent par mail ou via l'appli de France Inter que l'orange a longtemps été un luxe. C'était même un cadeau de Noël que l'on avait comme ça au pied du sapin pendant très longtemps.
Noël, dans mon enfance, c'était le jour où on me donnait une orange et c'était un grand événement.
Sous la forme de cette pomme d'or parfaite et brillante, je pensais tenir dans mes mains le bonheur du monde. Je regardais ma belle orange, ma mère la tirait de son papier de soie. Tous deux nous admirions la grosseur, la rondeur, l'éclat. Pendant des mois, elle nous assurait par ses belles couleurs que le bonheur et la beauté étaient de ce monde. Quelquefois, je la palpais, je la tâtais. Il m'arrivait d'insinuer qu'elle serait bientôt mûre. « Attendons encore, » répondait ma mère. « Quand nous l'aurons mangée, qu'est-ce qui nous restera ?»
Un extrait de « Changer la vie » de l'écrivain Jean Guéhenno en 1961 qui racontait son enfance, un texte lu, et on le remercie d'ailleurs, par Philippe Bardonneau de l'émission Interception sur France Inter. Vous aurez certainement reconnu sa voix. Franck Kurk, vous êtes beaucoup trop jeune pour avoir eu des oranges à Noël quand même.
Oui, non, j'ai pas eu d'orange comme cadeau de Noël.
Mais c'est quelque chose que, pardon, mais dont nos grands-parents nous ont toujours rebattu les oreilles.
Mon père, hein, aussi.
Souviens-toi, vous êtes des enfants gâtés. Nous, à notre époque, on avait des oranges à Noël. On l'a entendu, ça. Hein.
Mais mon père aussi, il me racontait qu'il a eu des oranges à Noël. L'orange, à l'époque, justement, était un fruit relativement lointain. Donc, il devait voyager. Ça voyageait pas aussi simplement qu'aujourd'hui. C'était doré, c'était juteux, agréable, sucré. C'était un fruit magique.
Vous m'avez dit, en préparant cette émission, un fruit magique aussi, parce qu'il comporte son propre emballage.
Alors, imaginez-vous, il a son propre emballage.
Son
papier cadeau, biodégradable, oui. Donc vous polluez pas, et qui plus est, une fois que vous l'avez épluché, il est déjà pré-découpé. C'est du quatrième gamme naturel, enfin, c'est un fruit extraordinaire, avec la clémentine évidemment, mais c'est des fruits que l'on peut transporter sans emballage, qu'on peut désemballer n'importe où, sans avoir... Vous pouvez jeter les peaux d'orange par terre, ça se dégrade facilement, et puis tout est déjà découpé, vous n'avez pas besoin de couteau, de fourchette.
L'orange, c'est aussi la ressource qu'on apporte aux prisonniers. Peut-être pour des raisons de santé d'ailleurs. Alors,
Vitamine C. C'était une source de vitamine C pour lutter contre le scorbut à certains prisonniers qui étaient relativement mal alimentés dans ce genre de prison. Et c'est devenu un symbole aujourd'hui pour dire à quelqu'un qui va aller en prison, on lui dit on vous apportera des oranges.
C'est ça. Explorons les quelques variétés d'oranges qu'on peut utiliser en jus ou bien à table ou en cuisine, comme le fait Manon Fleury. Manon, les oranges que vous utilisez, donc vous nous avez dit qu'elles venaient de Sicile, ont-elles une variété particulière ?
Alors là, l'orange que j'ai utilisée pour réaliser ma salade d'endives, c'était une orange naveline.
Oui.
Qui est plutôt donc une orange à jus, normalement, si je me trompe pas. Mais qui justement a une chair assez intéressante, qui se découperait presque à la main, justement, si on avait des segments dans la main. Et donc, en fait, je me suis amusée à la faire en jus. J'ai ajouté aussi dans ma vinaigrette un peu de jus d'orange sanguine pour la couleur.
Oui.
Et aussi pour l'acidité, parce que c'est un peu plus acide que la naveline. Et pour mon dessert, j'ai utiliser justement une orange sanguine, des petites oranges sanguines que j'ai eues la semaine dernière, qui étaient splendides. Et je vois qu'on me montre.
La naveline, hein, ou naveline, ou gnôle navel, c'est une navelle précoce.
Oui.
Les navelles, c'est les oranges avec un nombril, un deuxième petit fruit à l'intérieur.
Mais navelle en anglais.
C'est nombril.
Donc ça, on les reconnaît pour le coup. Hein.
Oui,
alors elles ont ce petit nombril.
Je vous en ai amené une qu'on ne trouve pas dans le commerce avec un nombril absolument.
J'aimerais pas trop avoir ce nombril en premier.
Mais du coup, la navelle.
C'est carrément une protubérance.
Alors la navellina, c'est une précoce, justement, elle mûre dès décembre, et elle est un peu plus juteuse que la navelle classique, même si ça reste quand même une très bonne orange à couteau, en fait, plus qu'une orange à jus. Et ensuite, les sanguines de Sicile, c'est surtout la variété Tarocco, qui sont des oranges exceptionnelles, surtout en Sicile. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les oranges sont très sensibles au terroir, et la Sicile est un excellent terroir pour les oranges sanguines.
Oui, je vous coupe, mais celle que j'ai utilisée pour mon dessert, c'est une orange sanguine Moro. Et aussi,
Moro, c'est encore une autre variété extraordinaire. C'est une des celles qui se colore le mieux.
Oui.
Elle a un petit goût de fruits rouges. C'est des fruits ronds qui peuvent être exceptionnels. Alors encore, si on en a, et elles sont pas bonnes tous les ans. En revanche, en Sicile, c'est vraiment de très très bonnes oranges.
En parlant d'orange sanguine.
Alors l'orange sanguine, avec ce goût très très musqué et très particulier, on en trouve en Tunisie, on en trouve en Sicile. Mais en Sicile, elles sont magnifiques. Elles poussent sur les flancs de l'Etna, dans la lave noire, et elles sont noires comme la lave. Elles ont de temps en temps un tout petit oubli orange, une petite pointe orange dans ce noir absolu qui est tout à fait bouleversant. Et leur goût rappelle vraiment un peu la terre, un peu la lave. Il est un peu minéral.
Des oranges sanguines carrément au jus noir. Et c'était un témoignage de la cuisinière Marianne Comely, à qui on rend hommage d'ailleurs, une très grande cuisinière qui a beaucoup travaillé pour la presse féminine, disparue en 1996. Elle connaissait bien la Sicile, évidemment.
En 2016, François Régis.
Oui, 2016, pardon.
Pardon.
Oui. Et elle connaissait bien la Sicile, d'où venaient justement ces oranges sanguines, vraiment de couleur quasiment noir. C'est un rapport avec la lave, non?
Alors, c'est un rapport avec le terroir et surtout c'est climatique. Ticodépendant, c'est-à-dire c'est vraiment ça dépend du climat. Il faut beaucoup de chaleur, mais aussi un peu de froid. Et du coup, la Sicile correspond bien à ce terroir, comme en Tunisie. Parce qu'on a entendu parler aussi des oranges sanguines de Tunisie, où il y a un terroir exceptionnel pour la maltaise, maltaise demi-sanguine, notamment sur le Cap Bon en Tunisie.
Deux informations très importantes d'ailleurs concernant la couleur de l'orange. La première, c'est que vous m'avez confié, information capitale, que orange, c'est le nom d'un fruit, mais c'est aussi le nom d'une couleur. Ça, on le savait. Simplement, qui a donné son nom à l'autre, en quelque sorte. Est-ce que c'est le fruit ou est-ce que c'est la couleur?
La foule, la poule.
En fait, c'est le fruit qui a donné son nom à la couleur.
Et ce n'est pas la couleur qui a donné son nom au fruit.
Oui, on parle de orange pour ce ocre marron depuis qu'on connaît l'orange, et donc c'est l'orange qui a donné son nom à la couleur. Avant, on parlait de type de ocre, de jaune, de marron, de choses comme ça.
Et Estherelle, en parlant de couleur, il y a une autre question d'auditeur.
Beaucoup d'auditeurs posent des questions sur les oranges vertes.
Oui.
En signalant que souvent, on peut les manger comme ça, on ne le sait pas forcément, notamment en Afrique. Quelqu'un qui était au Rwanda, qui nous dit qu'il s'est régalé d'oranges vertes, qu'il a été surpris de pouvoir déguster un fruit aussi vert et aussi mûr à l'intérieur.
Est-ce à dire que l'orange n'est pas orange partout ?
Exact, l'orange n'est pas orange partout. L'orange a besoin de chaleur pour mûrir à l'intérieur, au niveau de sucre, acidité, etc. En revanche, pour la couleur externe, elle va avoir besoin de froid. Donc en effet, si vous mangez des oranges en Afrique de l'Ouest ou aux Antilles, elles vont rester plutôt vertes. Mm-hmm. En revanche, dès que vous avez de grands écarts de température jour-nuit avec un peu de froid, elles vont commencer à devenir orange.
Incroyable.
C'est pour ça que les premières clémentines de Corse qui arrivent en tout début de saison où il n'a pas encore fait tout à fait froid, elles vont avoir le cul vert. Alors qu'elles peuvent être mûres à l'intérieur et que les oranges traditionnelles que l'on consomme en Corse, qui sont des oranges très tardives, que l'on va commencer en juin-juillet, elles reverdissent, elles redeviennent un peu vertes parce que justement il ne fait plus froid.
Donc ça veut dire que plus on se rapproche des tropiques, moins il y a d'amplitude thermique entre le jour et la nuit et plus l'orange est verte.
Exact.
Et c'est ce choc thermique entre le jour et la nuit, sous nos contrées, notamment en Méditerranée, qui va porter à l'orange cette belle couleur orange.
Absolument.
Et le consommateur, clairement, occidental, il veut une orange orange, il veut pas une orange verte. Une orange verte, pour lui, c'est pas une orange mûre.
On est des singes qui achètent, enfin, qui consomment avec les yeux, donc il nous faut un indicateur pour savoir si le fruit est mûr ou pas, et la couleur en est important. Donc, c'est un peu contradictoire pour nous de manger un fruit vert à l'extérieur quand on cherche du fruit mûr. Quand on est habitué, ça pose pas de problème. Sur un marché européen, c'est plutôt compliqué.
Et l'orange, on l'a choisi bio pour pouvoir cuisiner sa peau.
On va déguster. Sur France Inter.
Estherelle, je parlais de peau d'orange, mais j'évoquais pas ni de secret de beauté, ni de...
Non, François-Régis, on ne parle pas de cas qui tombent ses
lignes.
Alors, ne voyez aucune remarque ou remarque sexiste dans mes propos.
Non. François-Régis ne se permettrait pas, lui, Donc, on ne parle pas de capiton de cellulite, bien sûr, parce que j'en ai trop besoin en hiver pour éviter les engelures aux cuisses. Non, je parle donc de la vraie peau de l'orange, celle qui a trop tendance à finir à la poubelle. Et c'est dommage, parce qu'en plus, elle est difficile à composter. On peut quand même en mettre un peu dans l'ombricomposteur.
Mais pas trop, hein. Les agrumes, d'ailleurs. Hein.
Exactement, sinon les vers font la gueule. Et quand on cuisine, on salit aussi. Avec la peau d'orange, on peut aussi faire le ménage.
C'est ça, mais vous n'avez pas l'air d'accord sur les agrumes dans le composteur. Moi, j'ai un composteur dans mon jardin. Jamais on me dit il faut pas mettre d'agrumes.
Moi, je composte allègrement mes agrumes.
Ah bon? Mais ça se décompose.
Si on me permet d'intervenir, effectivement, maintenant il y a des techniques. Enfin, moi, j'ai un compost maintenant au restaurant et on peut mettre les.
Vous décomposez les peaux d'agrumes.
Oui, enfin,
est-ce que j'ai lu en préparant ma chronique, il paraît que c'est une question de quantité.
Oui.
En fait, il faut pas en mettre trop pour déstabiliser l'ensemble du compost et que ça dépend si c'est du lombricompost ou du compost en extérieur. Fin de la parenthèse. Compostage.
Bonne note. Après les recettes de cuisine et les recettes de jardinage, vous faites désormais dans les aménagers, c'est bien.
Ben oui, parce que je veux que rien ne se perde dans ma cuisine. Et chez moi, vous savez, elles font trempette dans le vinaigre, les peaux d'orange. C'est tout bête, on met ces épluchures d'orange bio dans un bocal, on les recouvre de vinaigre cristal, vous savez celui qui sert à détartrer la bouilloire, on patiente 2 semaines et on filtre. Tadam, je vous ai apporté mon bocal de vinaigre d'orange.
Fabuleux.
Et une fois ce vinaigre filtré, on le mélange à part égale avec de l'eau, on le met dans un spray et ça vous fait un super nettoyant pour le plan de travail, le frigo, la table après le repas. Alors ok, il faut frotter, mais comme les terpènes naturellement contenus dans la peau des agrumes ont des vertus antibactériennes et antifongiques, ça fait quand même bien le boulot.
C'est plus l'émission on va déguster, c'est l'émission on va décaper en fait.
Ouais, ok,
c'est
d'accord.
Non mais on parle cuisine un jour ou non?
Oui.
Non, parce que attendez, moi il me faisait très envie ce vinaigre cristal teinté de peau d'orange. Je pensais que pour
ne pas boire,
pour
quand
une...
même,
non mais pour une
salade. C'est un peu violent. Quand même, c'est du vinaigre cristal, je trouve que c'est un peu fort quand même.
Dommage. Bon, on va reparler cuisine, Estherelle.
Alors, je reviens à des considérations plus gourmandes avec la chandeleur hier. Hein, ça a tartiné sec sur les crêpes. Et les oranges et les crêpes, forcément, ça nous mène tout droit au... Crêpes Suzette, qui reste un grand classique à déguster une fois dans sa vie. Alors, on pense que c'est des crêpes flambées au Grand Marnier et aux zestes d'orange.
Et puis alors, surprise, quand on regarde dans Escoffier,
oui,
il n'y a pas de flambage,
c'est vrai,
mais un beurre sucré aux écorces de mandarine et pas d'orange, il y a un petit peu de citron et il y a un soupçon d'alcool. Donc je vais éviter de m'attirer les foudres des puristes de la crème Suzette et je vais me réfugier tout de suite dans les bras de la perfide Albion, puisque moi, tout simplement, c'est de la marmelade que je mets sur mes crêpes.
Alors, Estherelle transformée en Lady Marmelade.
Voulez-vous manger avec moi ce soir? C'est le cri de ma tartine. La sous-british marmelade d'orange amère, en fait, elle aussi, elle n'est pas vraiment anglaise, mais évidemment portugaise.
Et ben voilà.
Marmelo en portugais, c'est le coin.
Ah.
Donc dès le 15e siècle, les marchands portugais ont livré les Tudors en pâte de coin aromatisée à l'eau de rose. Petit délice entre gourmandise et médicaments. À ce moment-là, on s'est mis en Angleterre à faire toutes sortes de marmelades, c'est-à-dire des préparations utilisant l'ensemble du fruit, la chair et la peau ensemble, avec des pommes, des poires. Et on s'est mis à le faire avec des oranges de Séville, les fameuses bigarades, que l'ajout de sucre rendait plus facile à apprécier. Elles sont arrivées au même moment, en fait, en Angleterre.
Intéressant.
D'où sa mère, cette marmelade d'orange a bien sauvé des vies et même des nausées Marie Stuart, qui en a pris lors de sa traversée de la Manche pour aller vers Calais. C'est même devenu la spécialité de la ville écossaise de Dundee. Tout ça, avec le Brexit, je suis pas sûre qu'une tambouille européenne pareille aurait pu naître quand
c'est
même.
Sûr. Hein.
Quand on se balade dans les rayonnages des épiceries anglaises, si on a un peu la flemme de la faire comme moi hier soir, on trouve de la thick cut, de la coarse cut, de la medium cut, de la fine cut. En fait, tout est dans la taille de l'écorce d'orange. Sachant que plus c'est coupé épais, plus ce sera amer au final. En fait, c'est pas uniquement un ingrédient à tartiner, la marmelade, et quelque chose pour faire plaisir à l'ours Paddington. Ça sert vraiment à remplacer une partie du miel, par exemple, dans le pain d'épices. On peut en mettre au fond d'une tarte au citron une toute petite couche. On peut en taquiner une glace à la vanille, et même, chut, épaissir avec une sauce d'ossobuco.
Mais c'est cohérent, puisque l'ossobuco, on y met en général une grémolata, notamment
voilà,
à base de zeste
exactement
d'orange, pour parfumer le plat juste avant le service.
La grémolata.
Définition d'une grémolata, Manon, juste avant d'avoir la recette de marmelade, Christelle.
C'est la sauce, c'est la petite sauce qu'on vient mettre sur le pour terminer l'ossobuco à
voilà
base de persil, si je ne me trompe pas.
Exactement.
Et justement d'orange.
Moi, comme justement je n'ai pas fait la marmelade, j'en ai toujours un pot à portée de main. J'ai pensé à vous pour le brunch aujourd'hui. Vous êtes encore le temps de le mettre sur la table. Je vous ai fait des scones à la marmelade d'orange.
Bravo.
Directement, tout en un. Alors, ça va aller très vite. Vous prenez 380 g de farine. Vous mélangez ça avec 30 g de sucre, 2 cuillères à café de levure chimique, 1 quart de cuillère de café de sel fin. Ma petite touche, c'est d'y rajouter un petit peu de thé Earl Grey mixé très très fin, un peu comme la poudre de vanille. Ça enlève le goût de la levure chimique. C'est une astuce que m'a offert un pâtissier qui s'appelle François Perret, qui officie au Ritz, je lui ai piqué. Vous malaxez avec 85 g de beurre coupé en petits morceaux. Et quand ça fait comme du sable, on verse 220 ml de lait fermenté, ou de kéfir, ou de yaourt liquide mélangé.
Ou de l'Eribo.
Ou de l'Eribo, ce qui vous tombe sous la main. Et j'ai oublié 100 g de marmelade d'orange. Attention, on ne travaille pas trop la pâte du scone, hein, de la légèreté, de la souplesse, du doigté. Et hop, on renverse, on découpe épais, d'un seul coup, d'entrée d'un seul, un petit geste bien droit, pour qu'après les scones lèvent tout bien bien de façon régulière. Et ça, 12 minutes à 210 degrés.
C'est une réussite.
C'est super bon.
C'est, oh, c'est incroyable.
Scones.
Délicieux, Estherelle.
Incroyable.
Alors, eau de fleur d'oranger, Earl Grey ou eau de fleur d'oranger peut-être?
Oui, tout à fait. Mais moi je trouve que le Earl Grey, ça enlève un peu le goût désagréable de la levure chimique plus
Earl
que l'eau de fleur.
Bergamote, agrume.
C'est drôle voilà, parce que j'en ai aussi mis dans mon dessert.
Et bien justement, il nous reste une poignée de minutes, va falloir aller un peu vite malheureusement. Et pourtant cette recette elle est vraiment géniale. C'est de l'orange sanguite confite entière.
Oui.
On n'est pas très loin de la marmelade, sauf que le fruit reste entier.
Oui.
Et c'est vraiment un truc de votre grand-mère, je crois.
De la grand-mère de Joanne,
prodigieux,
qui est mon second,
ah oui,
la mamie Rachel.
Expliquez-nous.
Un jour, je vais aller très vite. On est au restaurant avec Joanne et on voit des oranges qui s'abîment dans la cave. Et là, à ce moment-là, on a l'idée de. Joanne me dit, ma grand-mère faisait des oranges confites entières dans un sirop pendant quelques heures. Et on a fait ça sur un coup de tête. Et finalement, c'est un dessert qui est resté à la carte du Mermoz pendant quelques mois,
c'est
et qui
incroyable,
fonctionne très bien.
C'est extraordinaire.
Et là, je trouve qu'avec l'orange, je l'avais jamais fait avec de l'orange sanguine, et je trouve qu'en fait, le fait de la faire confire entière, elle garde toute sa fraîcheur à l'intérieur.
Mais comment on s'y prend? Ça ressemble à un ballon de football complètement dégonflé.
Ouais.
Vous racontez-nous entière donc, hein,
entière,
rien à faire.
Entière dans un sirop.
Oui, mais dans un sirop. Enfin, vous voulez dire, vous plongez.
Je la plonge entière
d'accord,
dans
une casserole.
D'accord,
c'est pas au
four
du tout, hein. Non. D'accord.
Entière dans le sirop et je la fais cuire pendant à peu près 1h30, 2h à petit frémissement et c'est tout.
Vos sirops,
c'est une simplicité extrême.
125 grammes d'eau, 90 grammes de sucre.
Exactement.
Un peu de fleur d'oranger pour parfumer le sirop.
Oui, oh. Un peu de zeste aussi si on veut, un peu d'herbe.
Voilà.
On pourrait mettre des feuilles de laurier, on peut faire ce qu'on veut en fait. Et cette recette, c'est vraiment une recette de mamie parce qu'en fait, on peut laisser notre casserole mijoter pendant quelques heures sur le coin du fourneau.
Bravo, franchement. Et il y a d'ailleurs un gâteau. Toutes les recettes de Manon Fleury sont en ligne sur franceinter.fr à la page, on va déguster. Mais on s'en souviendra longtemps de cette orange confite entière. Je rappelle votre livre Agrumes, livre coffret pour lequel vous avez apporté vos lumières, Franck Curc aux éditions La Maison. Manon Fleury, il faut aller au Mermoz, votre restaurant 16 rue Mermoz, Paris 8e. Vous y serez très surpris par la cuisine, je peux vous le dire. La semaine prochaine, la cuisine de l'amour. On vous mijote une émission à la fois érudite et sensuelle pour réveiller tous vos sens à l'occasion de la Saint-Valentin. Mais on va vous faire une émission pleine de surprises. Déborah Dupont et Arnaud Daguin seront dans les fauteuils des chroniqueurs. Qu'est-ce qu'il a? Rien, Jérôme Gagnez. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.